Le journal, voici Estelle Schmid. Bonjour Estelle.
Bonjour. Pas de travaux, plus de balades non plus dans une trentaine de massifs forestiers du sud-est. Interdit d'entrée car les risques d'incendie sont élevés. Les guetteurs de feu scrutent la montagne. Reportage dans ce journal. Opération dépollution de Notre-Dame de Paris, phase 2. Le parvis de la cathédrale et les rues adjacentes pour décontaminer le sol du plomb. Les migrants bénéficiaires de prestations sociales aux États-Unis verront bientôt refuser permis de séjour et nationalité, mais les associations de défense des droits de l'homme n'ont pas dit leur dernier mot. En France, de nouvelles dégradations de permanence de députés, derrière elles des gilets jaunes, mais également des agriculteurs, on le verra. L'autorité des marchés financiers met en garde les personnes âgées contre le démarchage abusif par téléphone. Et puis une ouverture inédite au public cet été, l'Opéra Royal du Château de Versailles, une surprise attend les visiteurs.
Notre invité à 8h moins le quart, le cinéma avec Léa Drucker qui sera là. Elle est à l'affiche d'un film qui sort sur les écrans demain, « Je promets d'être sage ».
France Inter. La totalité des massifs forestiers des Bouches-du-Rhône et 7 sur 9 dans le Var sont donc totalement interdits d'accès. Ce matin, les risques d'incendie sont élevés. Il y a 2 semaines, un feu avait ravagé près de 30 hectares dans la rade de Toulon, d'où cette mesure radicale pour minimiser les risques. Et dans les Alpes-Maritimes, une unité spéciale, la Force 06, surveille chaque mètre de montagne. Ces guetteurs incendies sont installés jusqu'au mois de septembre, 24 heures sur 24, dans 9 tours de guet. Fabien Fourel s'est rendu dans l'une d'entre elles sur les Hauteurs de Nice, reportage.
Paire de jumelles vissées sur les yeux, Mehdi Virorello, un des 18 guetteurs du département, scrute toute la vallée.
Ici, on a une belle vue sur la hauteur de Nice et il arrive aussi de détecter des fumées de l'autre côté du Var, une trentaine de kilomètres.
30 kilomètres qu'il observe jour et nuit depuis plus de 15 ans.
Mon rôle est donc de trouver la fumée sur la carte. Il y a un quadrillage qui permet de donner des coordonnées des FCI, un petit peu comme une bataille navale finalement. Grâce à ces coordonnées, des moyens sont envoyés sur place et en fonction des indications que je donne, il y aura plus ou moins de moyens.
Ces jours d'orage aujourd'hui. Le guetteur sait qu'il doit être encore plus vigilant.
On repère les impacts de foudre et on reste en surveillance.
Dernier fait marquant il y a 2 semaines, un orage et puis...
Il y a eu un feu qui a brûlé 200 mètres carrés qui s'est déclenché 5 jours après.
Et c'est ainsi que sans ces hommes juchés dans les hauteurs, les incendies seraient plus dévastateurs comme l'explique Jean-Paul Léoni, le chef adjoint de la Force 06.
Depuis le 1er juillet, il y a eu 84 alertes, dont 40% qui ont été vues en direct en premier par les vigies. On ne communique que sur les feux catastrophes. Mais chaque petit feu qui est éteint est un feu catastrophe en devenir.
Mehdi restera 5 jours et 5 nuits comme un ermite dans sa cabane, le talkie-walkie en permanence à la ceinture, avant d'être relevé.
Reportage signé Fabien Fourel de France Bleu Azur. Il y avait du vent et la mer était agitée. Le parquet de Coutances s'ouvre une enquête pour déterminer les causes du naufrage hier dans la Manche. 3 enfants sont morts. L'embarcation dans laquelle ils se trouvaient avec 3 adultes a chaviré. Les adultes ne sont que légèrement blessés. Mais les enfants âgés de 7 à 11 ans bloqués dans la cabine n'ont pu être ranimés malgré l'intervention rapide des secours. Ce serait le 88e féminicide depuis le début de l'année, selon le décompte de l'association Féminicide par Compagnon ex, une femme de 71 ans poignardée en pleine rue à Port-Vendre dans les Pyrénées-Orientales hier soir. Son mari est en garde à vue. Le couple était en instance de divorce. Des barrières installées hier pour délimiter la zone des travaux autour de Notre-Dame de Paris. Une nouvelle opération de dépollution pour se débarrasser du plomb. Les nettoyages au jet d'eau n'avaient pas été vraiment une réussite. C'est donc une autre technique qui sera utilisée aujourd'hui. Delphine Evenou, le but c'est évidemment de pouvoir reprendre le chantier de reconstruction dès lundi prochain.
Après plusieurs semaines de tests, 2 techniques ont été retenues pour venir à bout du plomb. La première, c'est un gel absorbant appliqué sur le mobilier urbain, les bancs, les bacs à fleurs, les lampadaires. Ce film permet de capturer les particules de plomb et après 3 jours de séchage, ce sera donc le même principe qu'une bande de cire d'épilation. On décolle et la pollution vient avec. Cela évite que les particules ne se volatilisent dans l'air pour aller se poser ailleurs. Le deuxième procédé que les ouvriers spécialisés vont utiliser, c'est une sorte de gros karcher, un nettoyage ultra haute pression pour le parvis et les rues, plus efficace que le basique nettoyage à l'eau grâce à l'ajout d'un tensioactif, un agent chimique spécial qui va être aspiré et récupéré, là encore pour empêcher que les particules de plomb ne s'envolent. 3 semaines sont prévues pour mener à bien ces opérations de dépollution. Des prélèvements de contrôle seront alors effectués pour s'assurer que le parvis est à nouveau sain.
Les dossiers à retrouver sur franceinter.fr.
7h35, le journal Estelle Schmid. Estelle, le trafic aérien est toujours perturbé ce matin à Hong Kong.
Mais l'aéroport a rouvert au lendemain d'une nouvelle manifestation pro-démocratie et l'intrusion dans le hall de plus de 5000 personnes. Certains sont restés sur place, d'autres promettent de revenir en masse. Et Pékin hausse le ton, la violence pousse Hong Kong vers un chemin sans retour, a dit ce matin la chef de l'exécutif. Le gouvernement central dit voir des signes de terrorisme dans la contestation. Reportage dans le journal de 8 heures. Des immigrés autonomes financièrement qui ne pèsent pas sur la charge publique. Voilà ce que souhaite Donald Trump, le président américain. Ce n'est pas nouveau. L'administration Trump le met en application et durcit les conditions d'immigration à partir du mois d'octobre. Un moyen également de limiter l'immigration légale et illégale. Précision à Washington de Gregory Phillips.
En dévoilant au printemps son projet de réforme du système d'immigration, Donald Trump avait été très clair. Désormais, nous voulons des immigrés qualifiés, des gens qui arrivent aux États-Unis sur la base du mérite et non pas, par exemple, en bénéficiant du regroupement familial. Cette fois, la Maison-Blanche va encore plus loin. Chaque étranger qui, aux États-Unis, bénéficie d'une prestation sociale, du système de santé Medicaid, d'allocation logement ou même de bons d'alimentation se verra systématiquement refuser la carte verte et, s'il l'a déjà, la nationalité américaine. Le texte a été rédigé par Stephen Miller, jeune conseiller du président parmi les plus conservateurs de son entourage, et est donc dévoilé à 15 mois de la prochaine présidentielle. L'immigration sera sans aucun doute l'un des thèmes centraux de cette élection. Si elles sont appliquées, ces mesures pourront concerner des millions d'immigrés pauvres aux États-Unis, mais les associations de défense des droits de l'homme ont déjà annoncé qu'elles allaient saisir les tribunaux pour bloquer ce projet de l'administration Trump. Washington, Gregory Phillips, France Inter.
La justice américaine, elle dénonce des irrégularités dans la prison où se trouvait Jeffrey Epstein. Et selon plusieurs médias américains, l'homme d'affaires de 66 ans, accusé de multiples agressions sexuelles sur mineurs, était seul dans sa cellule alors que les détenus sont censés être deux et il n'y aurait pas eu comme prévu des rondes toutes les demi-heures. L'enquête, elle, pourrait s'étendre à la France, notamment car Jeffrey Epstein venait très régulièrement dans notre pays où il possédait des propriétés. Deux membres du gouvernement ont carrément posé la question hier, directement recadré par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, au nom de l'indépendance de la justice. Difficile de tenir le décompte des dégradations de permanence de députés. Indignation aussi après la découverte de tags sur le local de la députée Patricia Galerno en Vendée. L'élu MoDem est morte le mois dernier d'un cancer. Bien souvent, ce sont les élus de la majorité qui sont pris pour cible. Colère des gilets jaunes, colère après la mort du jeune Steve le soir de la fête de la musique et colère des agriculteurs, notamment contre le vote du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Les syndicats agricoles le appellent au calme, mais du bout des lèvres, Manuel Ruffez.
Il a la double casquette, à la fois agriculteur et député de La République En Marche, ça en fait peut-être une cible de choix, d'autant qu'il le revendique, le CETA pour lui est un bon accord pour l'agriculture française. Sa permanence a été murée deux fois, c'est surtout l'inscription « traître » sur la façade qui l'a blessé, Jean-Baptiste Moreau.
Les bennes de fumier, le murage de permanence, c'est un grand classique, on l'a toujours fait, c'est notre mode d'action, oui, d'accord. D'une part, est-ce que ça a un jour été efficace? Moi, la réponse, elle est claire, c'est non. Et d'autre part, ça légitime toutes les autres actions par qui que ce soit. À la limite, ça autorise n'importe quel groupe de pression à faire pression sur un député pour voter dans le sens qu'il souhaite, quoi. Ce qui est excessivement dangereux d'un point de vue démocratique.
Et les leaders syndicaux agricoles refusent de condamner motif. Ce n'est pas de la violence, soutient notamment Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA.
Moi, je fais la différence entre des actions violentes et de vandalisme, de casse, de feu, telles qu'on les a vues, et les actions des agriculteurs. C'est pas la même chose. Les actions avec les attributs agricoles, la paille, la terre, les pierres, les parpaings, c'est l'expression d'un désespoir. C'est pas l'expression d'un appel au vandalisme ou d'un appel à la révolution. C'est pas la même chose.
La détresse des agriculteurs est grande aujourd'hui. Les députés, le gouvernement, tout le monde aurait dû être plus à l'écoute, conclut Christiane Lambert.
Manuel Ruffez. Pas de femmes et pas de grosses pointures parmi les candidats déclarés à la présidence du parti Les Républicains. Ce soir, 20h, fin du dépôt des parrainages. Il faut 10 parlementaires et 1300 adhérents. Christian Jacob, le chef de file des députés LR, les a déjà. Deux autres députés, Guillaume Larrivé et Julien Aubert, sont également candidats.
Vous faites peut-être partie de ces milliers de Français excédés par le démarchage téléphonique.
Ce coup de fil à l'heure du déjeuner pour vous vendre une assurance, une couverture santé ou encore investir en bourse. Eh bien, l'autorité des marchés financiers appelle à la vigilance et notamment à destination des personnes âgées, Faustine Calmel.
Tous les seniors ne sont pas concernés, mais avec le vieillissement de la population, les personnes vulnérables sont de plus en plus nombreuses, s'inquiète Nathalie Baudemoulin, directrice du contrôle des pratiques commerciales à l'ACPR, le gendarme des banques et des assureurs.
Une zone grise, hein, des personnes qui ne sont pas sous protection légale, mais qui vont avoir de plus en plus de difficultés à prendre des décisions appropriées et qui peuvent être ciblés par des opérations de démarchage téléphonique ou à domicile.
Nathalie Baudemoulin rappelle qu'il ne faut jamais s'engager immédiatement, qu'il vaut mieux prendre le temps de demander conseil à ses proches et utiliser si besoin le délai de rétractation, car les contrôles de l'ACPR ont découvert des cas pour le moins abusifs.
On a vu en effet des personnes qui ont souscrit sans même se rendre compte des nouveaux produits d'assurance alors qu'elles étaient déjà assurées, ou en effet dans le domaine des produits financiers, on va avoir la souscription de produits assez complexes et assortis de maturité longue pour des personnes assez âgées.
Certaines banques et assurances sont conscientes du problème. Elles ont déjà mis en place plusieurs actions. Interdiction de vendre des produits financiers complexes aux plus âgés ou ne pas démarcher par téléphone mais recevoir systématiquement les plus de 75 ans tout en veillant à ne pas discriminer ceux qui voudraient continuer à investir.
Il est habituellement réservé à quelques privilégiés et aux visites sur réservation. L'Opéra Royal du Château de Versailles ouvre ses portes au public. Imaginé par Louis XIV, c'est là que s'est tenu le banquet de mariage du futur Louis XVI et de Marie-Antoinette, lu ensuite de réunions pour le club des Jacobins et même du Sénat. Pour son ouverture exceptionnelle au public, cet été, un décor historique du XIXe siècle a même été reconstitué. Visite avec Mayeul de Charon.
Les décors sont d'origine, mais pas la toile de fond. Elle a été reproduite en un été. Un pari un petit peu fou et risqué. Raphaël Masson est conservateur au château de Versailles.
La toile était étalée et tous les peintres travaillent debout avec des pinceaux qui font un mètre et travaillent comme ça. Il faut imaginer qu'en peignant cette toile, il faut déjà avoir tous les effets de perspective qui vont être produits. Mais et là, on ne le voit qu'au dernier moment. C'est vraiment un métier d'art extraordinaire.
Et le résultat est bluffant.
On a l'impression qu'on peut aller jusqu'au tableau que l'on distingue tout au fond de la galerie, qu'on peut s'engager sans aucun problème dans cette galerie. Alors, en tout état de cause, ce décor est fait vraiment pour être vu de la salle. Vous mettez les yeux à 10 cm de ce décor, vous dites qu'est-ce que c'est que ce barbouillis ? Parce que ce sont des gros effets qui sont destinés à être vus de loin.
Ce palais est le dernier tableau de la grande représentation donnée par Louis-Philippe en 1837. Le roi inaugure son musée aux gloires de la France au château de Versailles. L'opéra, figé depuis la Révolution, sort ce jour-là du silence.
Ce ballet montrait un bal sous Louis XIV et un bal sous Louis-Philippe. C'était surtout le prétexte à mettre en valeur toutes les meilleures danseuses de l'époque, dont Fanny Elsler, qui a dansé sa fameuse cachucha sur la scène de l'opéra.
L'opéra royal de Versailles accueille désormais 100 représentations par an.
Et il est ouvert au public jusqu'au 22 septembre, Pierre.
C'était le journal d'Estelle Schmitt.